With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Au nom de l'amitié franco-belge.
Moi, maintenant, ça fait 6 ans que j'ai des acouphènes. Mais c'est un sifflement, un bruit qui te quitte jamais. Et ça rend des gens fous, il faut le dire, vraiment, zinzin. Quand ça m'est tombé dessus, c'était très flippant. Et le soir, je bédave, ça me fait oublier mes acouphènes. Mais si tu fumes un joint et que tu écoutes ton acouphène en mode « est-ce qu'il va disparaître ?», il va jamais disparaître. Par contre, si tu fumes un spliff, que tu te focuses sur autre chose et que tu regardes les Marseillais par exemple et que Paga t'explique qu'il est content de retrouver je sais pas, là on n'y pense plus, tu vois, moi j'y trouve ma tranquillité.
Comme quoi, regarder les Marseillais foncer peut relever d'un usage thérapeutique du cannabis.
Et oui, et comme quoi le thérapeutique n'exclut pas le récréatif. En tout cas, celui que l'on reçoit aujourd'hui a un usage important de la weed. On dit même de lui qu'il est double poumon de platine.
Un classement clairement non officiel, mais qui compte beaucoup, j'ai l'impression, dans certaines sphères du rap belge.
Vous l'avez deviné, Banana Kush, épisode 36 avec Roméo Elvis. C'est parti.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast de culture du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Son blaze pourrait être celui d'une variété de cannabis, la OG Romeo ou la Elvis Kush.
Des variétés très très concentrées en THC a priori. Hein.
Oui, en tout cas, la weed fait clairement partie de sa vie et de son œuvre. Dans ses textes, le rappeur et chanteur Romeo Elvis déclare volontiers sa flamme à la fume.
Même si la banane est nettement moins présente dans son nouvel album, qui sort le 27 mai, Tout peut arriver, que dans ses précédents projets. Moral, Moral 2, Chocolat. Mais tu sais, Christophe, le fameux chocolat qui s'effrite, là.
Oui, voilà, le chocolat, quoi. Alors, est-ce que c'est un signe de désamour, de maturité, ou juste l'envie d'évoluer? Ce qui est sûr, c'est que si la weed est moins présente dans ses textes, elle n'est pas du tout sortie de sa vie.
Depuis septembre 2020, Romeo Elvis s'était fait discret après une accusation d'agression sexuelle. Alors forcément, dans ces cas-là, on s'interroge. Surtout quand la banane a souvent été pour nous l'occasion de parler de sexisme dans la société. Alors à l'époque, Romeo reconnaît les faits et leur gravité. Il fait son mea culpa. Le voici désormais de retour dans les médias, sur France Inter, dans Télérama. Il répète avoir appris de ses erreurs, un fait suffisamment rare pour être signalé. Alors quand il nous a contactés sur Insta, on vous en dira plus dans un instant, on a réfléchi et on a décidé de le recevoir pour parler du seul sujet qui nous intéresse dans Banana Kush et qu'il connaît bien, la banane.
Salut Roméo.
Salut.
On est très content de te recevoir.
Merci, ça fait plaisir, moi je suis très content d'être là.
Pour commencer, alors c'est pas pour se la raconter, mais d'habitude on galère de ouf pour avoir des invités. On doit lancer 1000 invitations, les gens ils veulent pas parler de leur conso, etc.
Ouais.
Parce que ça reste hyper tabou en France, mais ce coup-ci, c'est toi qui nous as écrit sur Insta, et ça c'est cool.
Ouais, t'es ouf. Mais peut-être, ouais, parce que déjà c'est peut-être moins tabou en Belgique, donc on va peut-être plus spontanément vers les gens pour en parler. Et en vrai, quand j'ai découvert le podcast, je me suis dit, bah vas-y, envoie un DM, parce que j'avais trop envie de venir, en fait. un petit DM qui a bien fait son effet, quoi.
Alors, comment tu l'as découvert, d'ailleurs, le podcast ? Raconte-nous.
Bah, c'est très simple. Mid était avec moi au studio, ce bon vieux Mid. Et je lui dis, tu fais quoi en dehors de la musique ? Qu'est-ce que t'aimes faire et tout ? Et regarder des films, la radio et tout. Il me raconte un peu. Puis moi, je lui dis, moi, j'adore écouter des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Mon préféré étant quand même le Floodcast, c'est
ouais.
Un truc que je trouve vraiment succulent.
Bonsoir, donc je suis Romeo Elvis,
Le vrai, quoi, le rappeur. Voilà.
Bonjour, c'est Angèle Lafrite.
Non, pas l'accent. On avait dit que tu fais pas l'accent, parce que là, ils y croient, mais si tu, c'est mort si tu fais l'accent. C'est...
Et il me dit, tu devrais écouter Banana Couch, dans lequel il mélange deux passions, visiblement, que t'as, donc la et les podcasts, quoi. Je suis tombé dessus, j'ai écouté, et du coup, je me les suis tous binge écoutés. Et après, j'ai envoyé un petit message.
Merci à Mid. Hein.
Ouais, merci
pour te remercier. Et pour les auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode avec Mid, on vous invite à le chercher.
C'était il y a pas longtemps. C'était pour l'anniversaire de Nick la radio, c'était un enregistrement en public.
Bon, on va arrêter de parler de nous, on va peut-être parler de toi maintenant. Si tu connais l'émission, tu sais par quelle question on commence traditionnellement. Quel fumeur es-tu, Roméo Elvis ?
Moi, je suis un gros fumeur, je pense on peut le dire clairement. Nous, on se qualifie par catégorie de poumon et je suis un poumon de diamant, triple certification. Voilà, je fais partie des gros fumeurs qui fument tous les jours. Depuis un bon moment et je suis passé à une consommation de cannabis pur depuis 2018, ce qui a énormément changé les choses.
Ah ouais,
ouais,
c'est-à-dire
ouais. Bon, déjà évidemment ça coûte beaucoup plus cher, ça il faut le mettre en évidence, mais surtout ça m'a grave changé ma high, comme on dirait un peu, et je me suis rendu compte à quel point le tabac était nocif et que le mélange n'était pas bon. À un moment, j'étais un petit peu dégoûté, j'en fumais beaucoup et je commençais à me dire, bon, ça sert plus à rien. Et pur, c'est une autre culture, quoi. Et je me la suis pris en plein dans la tronche. On n'était pas beaucoup à pouvoir, des fois, se le permettre ou à le faire.
Et c'était quoi le déclic ? Tu voulais arrêter le tabac ? Enfin, quelqu'un t'a fait essayer un pur et tu t'es dit, waouh, c'est ça qu'il faut faire ?
Oui, totalement. Alors déjà, j'ai des tontons comme Caballero et Jean Jasque, que tout le monde connaît un peu dans le milieu, qui m'incitaient parce qu'ils étaient déjà passés du côté vert de la force. Je me suis lancé parce que j'ai eu l'occasion. J'étais en tournée. J'ai ce qu'on appelle un plug qui m'a filé beaucoup, quoi, tu vois, en un coup. Et j'étais là, putain, j'en ai plein, trop bien. Mais vas-y, je vais essayer. Et je suis tombé amoureux, je me suis dit, allez, let's go, on part là-dessus. Plus jamais je mets du tabac dans un joint.
Ça a changé quoi, ta consommation ?
Ça a changé qu'elle m'a, en un coup, un peu plus servi, je dirais. Avant, c'était vraiment un truc sur lequel, finalement, j'avais plus vraiment de contrôle et qui me mettait vraiment, finalement, plus down qu'autre chose. Et en mettant un arrêt aussi à la nicotine, à la dépendance à la nicotine, ça m'a vraiment permis de me rendre compte, putain, mais en fait, ça m'aide. J'ai des problèmes d'acouphènes, dont on peut en parler aussi, si vous voulez, mais... Ça m'aide à vraiment détendre les acouphènes. Là où avant, quand je fumais, c'était avec du tabac, ça montait, ça descendait, ça mettait dans des états. Je m'en sers aussi pour le sport. Ça améliore mes capacités à soulever des poids, ça enlève la douleur. C'est un gars que je connais à Los Angeles qui m'a dit, moi, tous les matins, avant la salle, je m'en mets un pur et je pars à la salle et je soulève. Et je le croyais pas. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer et tout. Depuis 2019, je fais un peu de sport pour m'entretenir pour les tournées. Je vais un matin, on va dire, un fonce-dé. Et je le dis à mon coach et on essaye. Et on fait, je soulève beaucoup plus. Donc on se base sur ça. Je vais pas tout le temps fonce-dé non plus pour pas que ça devienne un mauvais rythme. Je me rends aussi compte que niveau du cardio, c'est un peu plus compliqué. Pour courir et tout, j'arrive pas. Mais je soulève de plus en plus. Et je bats carrément mon record de... C'est deadlift, c'est quand tu soulèves au sol les poids avec halter. Et je fais 140 kilos.
Ah oui, rien n'est plus beau qu'une belle paire de muscles, Nicolas.
Que j'arriverai jamais à faire après sans bédave. Et mon coach, il est tellement choqué, et je vous jure, je donne pas son nom, il s'est mis à bédave. Il fumait pas. Il s'est mis à bédave. Avec tabac, c'était impossible à concevoir.
Arrête, gamin, arrête. Ça commence comme ça et après tu prends le goût, arrête.
Et là, tout d'un coup, le joint pur, je me suis rendu compte que ça avait encore un tout autre sens, quoi, tu vois.
Et du coup, tu fumes moins de pétards, vu qu'ils sont purs, j'imagine.
Depuis que je fume pur, je fume moins de pétards, parce que tu te rends vite compte que ça te met des giga-claques aussi, ça te fait partir, hein. Un joint pur, tu pars, quoi, tu vois, l'appel de la nicotine, je m'en suis détaché de plus en plus progressivement. Je fume plus de clopes depuis. Depuis que je me suis mis à fumer pur.
Du coup, est-ce que t'as tendance peut-être à tirer quelques taffes et à le laisser poser, ou est-ce on fume plus de la même manière quand on fume des purs, on tire pas tout le joint comme ça d'un seul coup, c'est plus un truc qui va t'accompagner pendant plusieurs heures, que tu vas poser, reprendre,
etc. De ouf. Mais même, je veux dire, pour le goût, j'ai pas envie d'être dans un esprit de...
Pas d'apologie, hein.
Ouais, d'apologie, ni d'incitation.
En revanche, avec le pur, c'est plus fort. Donc potentiellement des bad trips.
Ouais, je pense que c'est plus risqué, hein. Personnellement, j'en ai jamais vécu. Et alors encore moins depuis que je bois plus d'alcool. Il faut choisir son camp, tu vois. Boire un petit coup, fumer un joint, c'est... je pense qu'il faut pas tout mélanger, quoi.
Toi, tu bois plus d'alcool?
Oui, moi, je bois plus d'alcool, personnellement. Ouais, j'ai arrêté en 2017. Comme ça, clac. En mode, vas-y, en fait, l'alcool, ça me fait plus perdre le contrôle qu'autre chose. Et je me suis dit, bah, vas-y, en fait, choisis ton camp, quoi. J'aime tellement la bédave, j'aime tellement tout ça, toute cette culture. Je me suis dit, c'est déjà assez, quoi, tu vois. Si je rajoute l'alcool à ça, ça devient vraiment problématique. Parce que j'ai une bonne consommation de cannabis, quand même.
Une addiction à la fois.
Ouais, c'est ça, quoi, tu vois.
Tu sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Tu sais que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant au petit pépé, c'est fatal pour ton cœur.
Alors, on va rembobiner un petit peu et tout reprendre depuis le début. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as découvert le cannabis ? À quel âge tu as commencé ?
Dans ma famille, c'était déjà installé. Pas mes parents, mais des tontons, de par-ci, de par-là, des cousins. Il y a beaucoup de fumeurs. Et moi, la première fois que j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Et c'était vraiment juste avant un examen, tu vois, donc pas une bonne idée. et après, j'ai pas tout de suite repris. Et quand je suis arrivé en école artistique, évidemment, avec tous les artistes, là, je suis tombé dans le délire et voilà, quoi.
La première fois, c'était une bonne expérience, t'en as un bon souvenir ?
J'ai pas un souvenir fort du truc, j'ai même pas l'impression que j'ai vraiment ressenti un truc la première fois. Premier souvenir marquant, c'est à l'école, à Saint-Luc, là, à l'internat, avec tous mes potes français et tout. On allait voir des films à l'auditorium le soir. Et on a été voir Bruce Tout-Puissant. Et je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là. Et c'était incroyable. Et vraiment, Jim Carrey m'a semblé être encore un être plus incroyable qu'il n'était. Et...
Je ne voudrais pas me battre. Aussitôt que vous vous serez excusé et que vous aurez reconnu tous vos péchés, je vous absoudrai et continuerai sur le chemin de la droiture.
Ouais, ça m'a mis une giga claque et là je me suis rendu compte, ça c'est un pouvoir magique qui m'arrive là, quoi. Ouais.
C'était la révélation, quoi.
Ouais, un petit peu quand même, ouais.
Et t'as gardé cette habitude depuis de fumer un joint en mettant un bon film ?
Chez moi, ouais, évidemment, ça accompagne à peu près tout ce que je fais, quoi. Quand je fais à bouffer, quand j'écris un texte, quand... Mais après, je le fais pas systématiquement, hein. J'ai dû un peu calmer la consommation parce que j'ai appris à conduire.
Qu'est-ce que tu recherches dans ce pétard, alors que ce soit au moment où tu cuisines, au moment où tu lis, au moment où tu écris, qu'est-ce que tu vas aller chercher ?
À chaque fois, un truc différent, hein, en fonction. Hein. Comme on disait tout à l'heure, à certaines sessions de sport, je vais aller chercher une déconnexion de mes sensations, de douleur et une espèce de fixette. À certains moments, quand je cuisine, ça va être aussi pour méga kiffer le goût parce que ça rajoute un truc incroyable. Quand je vais écrire, ça va être pour me mettre dans un mood aussi de concentration, de focus, de détente. Avant un film, ça peut être pour rajouter un petit peu de sucre au film, à l'ambiance, quoi.
Et tu nous disais tout à l'heure qu'il y a un moment de ton parcours de fumeur,
ouais,
où ça te faisait pas forcément du bien.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous décrire justement ces endroits plus sombres où,
ouais,
ça t'a
grave, mis... bien sûr, parce que là on est en train d'en parler avec beaucoup de smile, mais il faut évidemment parler des aspects plus sombres et cette façon dont ça peut vraiment puiser dans tes émotions, dans ton énergie et vraiment te changer sans que tu t'en rendes compte. Le mot important, c'est cette dépendance, en fait. Le problème, en fait, c'est que il y a des espèces de légendes autour du cannabis. On est tellement pas bien informé qu'on sait pas vraiment si oui ou non ça rend schizophrène. Si oui ou non ça crée des dépendances. On dit que le cannabis ça rend pas dépendant. On dit que les tabous qui sont établis en France, en Belgique dessus font qu'on fait même pas vraiment de la bonne prévention. Il y a encore un discours de boomer avec le cannabis. Il y a tellement de questions auxquelles on répond mal.
Toi, t'aurais aimé, adolescent, avoir peut-être une séance à l'école ou quelqu'un. T'en as eu ?
Elles étaient juste à chier.
Qu'est-ce qu'on t'a raconté ?
Non, mais c'est ça, en fait. On nous racontait, attention, dans les joints, il y a de la cocaïne. Et on rigolait, quoi.
Sérieusement ?
Là, c'est des conneries, bien sûr. Moi, j'étais dans une école où il y avait beaucoup, beaucoup de fumeurs de joints. Et donc, il y avait une éducatrice qui était vraiment... un peu comme dans Harry Potter, c'est un moment où il y a vraiment une méchante qui débarque dans l'école et qui veut vraiment faire du mal aux élèves.
Je ne dois pas mentir.
Il y a cette dame qui est arrivée avec ce truc de on va faire des tests pipi aux élèves. Et du coup, on était tous sous test pipi. Mais j'avais limite envie de plus provoquer cette personne que de l'écouter au final, quoi. Parce qu'on était face à des gens qui juste maîtrisaient pas le sujet.
Voilà, parce que quand l'interdit devient permis, ben c'est plus intéressant. C'est un petit peu comme les vendeuses de pralines. Au début, on leur permet de manger autant de pralines qu'elles veulent. Alors après, elles sont malades et elles ne peuvent plus voir une praline en peinture. Ben voilà, c'est l'idée.
Moi, je serais ravi de faire de la prévention, si on me demandait, dans mon ancienne école, de m'adresser aux anciens élèves en disant « Moi, j'ai fumé des bédos ici. » Il y a plein de problèmes qui pourraient être beaucoup plus, comment dire, compréhensibles auprès des jeunes si c'était raconté par les personnes qui sont qualifiées, quoi.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on danse tous ensemble sur la prod? Nos sens sont nos envies d'abord. J'ai juste envie de laisser la loupe rouler comme boulet. Tous les jours change et si je suis pas d'accord.
On a ressorti les textes d'un vieux morceau à toi, Pollen, avec L'Or du commun, où tu dis, entre autres, tout est léger comme le pollen, on veut s'élever comme le pollen, le temps atténue les problèmes.
Pollen, pollen, tout est léger comme le pollen, pollen, on veut s'élever comme le pollen, pollen, le temps atténue les problèmes, problèmes.
Est-ce que la weed, c'est un moyen de mettre de côté les problèmes? Et est-ce que c'est pas ça aussi le problème, c'est d'aller chercher dans la weed une solution à ces problèmes?
Non, ouais, c'est le danger, ouais, de la weed. C'est que si tu veux régler un problème en fumant un joint pour l'oublier, tu vas le décupler. Tu crois que t'as effacé le problème au moment où tu bédaves, tu crois que tu penses à autre chose, et quand t'as fini de bédave, là tu commences à bader sur le problème que t'aurais résolu une heure avant si t'avais pas fumé. Moi je le dis maintenant, alors que avant je le faisais pas, mais maintenant je contrôle ma consommation, c'est à la fin de la journée en fait. C'est vraiment quand t'as fini de faire des trucs, tu dois plus rendre des comptes à quelqu'un, c'est là que ça... pour moi que tu peux commencer, quoi, tu vois.
Une fois que t'as réglé les problèmes.
Allume-toi, ouais, et règle les problèmes avant, de ouf. Et je conseillerais aux gens quand même d'éviter un maximum d'être dépendant du bédo pour le sommeil, quoi, pour dormir. Parce que ça, je crois que c'est le pire truc, et qu'après, t'es dans un truc où... Tu sais, les mecs qui fument trop, moi j'ai eu ça une grande période où tu te réveilles, t'as le seum direct. Tu sais même pas encore pourquoi. T'as le seum direct.
Mais finalement, est-ce que tous les fumeurs de joint, en tout cas les fumeurs de joint réguliers, passent pas par justement une phase où on fume pour oublier ses problèmes, pour les remettre à plus tard? Comment on fait pour sortir de cette phase? Je vais te poser un peu la même question qu'au début de l'interview, mais c'est quoi le déclic? Comment on résout ça?
Bah, je pense qu'on doit... On le sait profondément qu'on doit arrêter si on doit arrêter, si on est trop dedans. On le sait et on doit juste faire violence, c'est facile à dire. Hein. Mmh. Je pense que la meilleure manière en fait c'est de contrebalancer, arrêter comme ça marche pas. Trouver des trucs, tu vois.
Par le sport par exemple?
Ouais voilà, j'allais dire, tu vois, par le sport. Prends le sport et serre-en-toi pour t'éloigner de la bédave, pour pas trop bédave. Faire des choses quoi, s'occuper de faire un maximum de choses de ma journée pour ne pas y penser au moment où j'ai envie de bédave. Kiffer quoi, parce que juste j'ai envie quoi.
Banana Kush, Camille Diao, Christophe Payet.
Donc aujourd'hui, tu dirais que t'as trouvé un bon équilibre avec ça, ou est-ce que les démons sont toujours pas très loin?
Maintenant, je vais le dire avec toute l'humilité du monde, mais je gère ça extrêmement bien. Je gère de ouf le cannabis, ma consommation maintenant, mais j'ai 29 ans et je fume depuis des années. Voilà, c'est une gestion de la vie. Comme à côté de ça, j'apprends aussi à manger moins de viande, à me rendre compte qu'en fait, les légumes, c'est grave bien si je les combine avec ça et tout. Ça, c'est juste apprendre à mieux gérer ses habitudes, quoi, tu vois, à mieux se rendre service en améliorant son mode de vie. Mais franchement, pour parler franchement, moi, j'ai encore un souci, c'est mon acouphène, tu vois.
Tu peux nous décrire juste pour nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce que c'est?
Les acouphènes, il y a différentes formes, mais c'est une gêne dans l'oreille, c'est un bruit permanent. C'est un truc qui me tire l'oreille, vraiment toute la journée, tous les jours, tous les soirs. En fait, c'est un bruit qu'on a à peu près tous dans les oreilles de temps en temps, qui arrive comme ça pendant 30 secondes, 15 secondes, un sifflement, un vrombissement, un bourdonnement. Et en fait, c'est dû à un choc auditif, on va dire, soit quand on est en concert, qu'on écoute beaucoup trop la musique trop fort, ce qui, moi, a été mon cas, malheureusement, soit par exemple, on travaille en usine et qu'on est sur une machine toute la journée et qu'elle fait le même bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, son cerveau, c'est un problème de nerfs, un problème de bruit identifié par le cerveau. C'est très complexe à expliquer, mais c'est un sifflement, un bruit qui te quitte jamais. Et ça rend des gens fous, il faut le dire, vraiment, zinzin.
Ma tête est pleine à craquer, dans mon milieu c'est un bon signe. Mon état mental inquiète mes frères, j'ai pas lu les consignes. L'oreille siffle encore, putain, putain. L'oreille siffle encore, oh, oh, oh. Ma tête est pleine à craquer, dans mon milieu c'est un bon signe. Mon état mental inquiète mes frères.
Quand ça m'est tombé dessus, c'était très flippant.
Est-ce que tu dirais que t'as presque un usage thérapeutique?
Ouais,
de...
grave.
De la weed, ouais. Par rapport à tes acouphènes.
Ouais, de ouf, bien sûr. Alors, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'aide vraiment parce que c'est une souffrance physique, quoi, je veux dire. Mais c'est quelque chose qui se contrôle avec le temps. Et s'il y en a parmi vous qui écoutent le podcast et qui souffrent d'acouphènes, qui sont acouphéniques, sachez que c'est quelque chose qui s'apprivoise et on finit par vivre avec, parce que c'est irréversible, on le sait, mais on finit par vivre avec, on apprend à juste à se rendre compte des moments où il est là, à cause de la fatigue, à cause du stress, de l'alimentation, de plein de choses en fait, hein, parce que moi maintenant ça fait 6 ans que j'ai des acouphènes, des deux oreilles, deux acouphènes par oreille, donc c'est vraiment beaucoup. Voilà, moi je m'aide avec, le soir, je me détends, je bédave, ça me met flex. Et ça me fait oublier mes acouphènes, mais attention, c'est pas le cas pour tout le monde.
Ouais.
J'ai des amis à moi qui m'ont dit, moi, les acouphènes, les joints et l'acouphène, ça me rend ouf, ça fait siffler encore plus.
Okay.
Donc j'inciterai personne à le faire. Moi, j'y trouve ma tranquillité. J'ai des amis, ça va être, je sais pas moi, boire un thé, lire un livre, peu importe.
Et donc quand tu fumes un joint, c'est pas que ça arrête le bruit,
non,
mais c'est que ça t'aide à dealer avec, quoi.
Ouais, c'est ça. En fait, quand tu fumes un joint et que tu écoute ton acouphène en mode, est-ce qu'il va disparaître? Il va jamais disparaître. Tu vas entendre que ça à fois mille. Il va sortir plus fort encore, tu vois. Tu vas avoir ces sensations exacerbées que t'as avec le joint. Par contre, si tu fumes un... Enfin, moi, ce qui m'arrive, hein, si tu fumes un spliff, que tu te focuses sur autre chose et que tu regardes les Marseillais, par exemple, et que Paga t'explique qu'il est content de retrouver Giuseppa.
Je suis persuadée que c'est une surprise de Paga. Je suis sûre que Paga, il est en train de me faire un petit truc. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça me change les idées et ça fait du bien.
Là, on n'y pense plus, tu vois. C'est cet exercice, tu vois, de pas penser à ça. Mais du coup, je pense à pas penser à ça. Mais non, pense pas au fait que tu penses à ça. C'est tout un micmac, tu vois, dans le cerveau. Mais je pense que moi, personnellement, je trouve ma tranquillité là-dedans parce que j'ai décidé que ma tranquillité, elle était là-dedans.
Et puisqu'on parle de thérapeutique ou de cannabis bien-être,
ouais.
Est-ce que tu as testé le CBD?
Ouais, de ouf.
Et alors, ça te plaît? Ça te parle?
Ouais, franchement, je trouve que c'est un truc génial. Vous savez quoi, le CBD, il m'a grave aussi aidé, en fait, tant qu'on y parle, à gérer ma consommation en fait de THC, parce que des fois j'ai juste la fumante, mais vu que je fume pas de clope, que je trouve pas ça bon, ben un gros joint de CBD,
un pur de
là,
CBD,
top, parce que ça détend quand même un petit peu, tu vois, ça te met dans cette petite ambiance. Je recommanderais aux gens de tester un petit joint de CBD pur, voilà, comme ça j'ai placé mes deux petites passions. Et... Non, franchement, le CBD c'est un bon délire, mais ouais, j'ai dans le milieu des gros bédaveurs, des gros poumons d'argent et de platine, ça se dit pas.
Ça se dit pas.
Ouais, moi j'assume de ouf.
Je n'aurai plus jamais de silence. Avant qu'il parte, j'en avais peur. Mais là, il est absent et ça, c'est pour toujours. Toujours ce même sifflement. Et dans mes insomnies, j'en pleure. C'est comme un nouveau deuil à faire, celui du silence. Je rêve de pouvoir rêver. Je rêve de pouvoir rêver comme toi. Lui se ferme pas l'oreille. Elle m'empêche de rêver. Aide-moi, sans bruit je n'entends que mon oreille. Et le silence rend plus fort mes acouphènes.
Tout à l'heure, tu nous disais que tu aimais bien allumer un pétard pour cuisiner, pour regarder un film ou une série, pour regarder les Marseillais, et aussi pour écrire.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'apporte?
Je fume pas à chaque fois que j'écris parce que je sais que ça me change. Donc j'aime bien aussi avoir l'esprit clair et écrire le matin tôt et avoir les idées nettes. Mais quand je le fais, en fait, ça me met dans un... dans une ambiance, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme quand tu fais quelque chose et que t'es passionné, tu rentres un peu dans une transe comme ça, tu vois. En fait, ça me désinhibe, tu vois, comme on boirait un coup, quoi. Vu que je sais ce que je fume, je vais aller vers le sativa, parce qu'il va pas me taper la gueule comme un indica. Je vais fumer une moitié, et puis après, je vais, tu vois, m'en servir, quoi. Pour un petit peu m'allumer, quoi. Une fois que tout est installé, pour faire les, tu vois, les derniers détails et rentrer un peu dans le farfelu et dans les artifices, quoi, tu vois. Je sais pas, mais tu peux aller te permettre de laisser ton cerveau aller chercher plus loin que ce qu'il ferait d'habitude. Ouvrir un peu tes sens et tes perceptions et te décomplexer face à ce que tu pourrais penser. Et ça fuse, quoi, tu vois.
C'est aussi face peut-être à l'angoisse de la page blanche ou ça n'a rien à voir.
Alors, je conseille pas de chercher l'inspi fonce-dé, parce qu'on est toujours déçu le lendemain.
Ouais, ça, je crois que personne le conseille.
Le syndrome de l'artiste, tu sais, qui fait un truc et le lendemain, il fait « Waouh, ouais, c'est naze !» En fait, l'inspi, il faut aller la chercher, tu vois, dans ce que t'as de plus brut en vrai, quoi. Parce que ce que tu vas dire fonce-dé, ça peut être marrant, le ton, ça peut être divertissant, mais ce sera jamais aussi pertinent que ce que tu dis vraiment quand tu maîtrises tes émotions et que t'as l'esprit au calme, quoi.
Ouais, donc au contraire, une substance, ça peut venir faire écran entre toi et ce que t'as au plus profond.
Ouais. Ouais, pardon. Ouais. Ouais, franchement, ouais, de ouf. Il faut être clean pour faire les choses bien dans l'ensemble. Ça reste une dogmatique.
Nick, la radio.
Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as la crème...
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
Dans tes textes, par ailleurs, tu parles beaucoup quand même de la weed. C'est un sujet récurrent. Pourquoi t'aimes parler de la weed dans tes textes?
Ben en vrai, parce que moi je fais partie des artistes qui parlent, tu sais, grave de leur mode de vie et tout, qui sont un peu auto-centrés et tout. Et en vrai, du coup, vu que je bédave beaucoup, ben ça revient beaucoup. Il y a moins dans cet album, mais c'est un truc qu'on m'a souvent fait savoir un petit peu, tu vois. C'est un thème qui revenait beaucoup.
Que t'en parlais trop.
Ouais, et je pense que c'est une facilité aussi, en vrai.
Ouais.
C'est un petit, ça fait partie des codes, tu vois. BXL, 1630, le spliff, la weed, c'est tous des trucs que tu les places quand t'as pas d'inspi. Enfin, tu sais, quand tu cherches à meubler un truc, t'as fait un début de phrase cool et puis. Et je fume un bédo. Allez hop, on passe.
Donc sur cet album là qui sort bientôt, au contraire, ouais. T'as peut-être travaillé à évacuer ce genre de facilité.
Ouais, je pense, hein, parce que on va voir quand je le réécouterai.
Parce que le précédent il s'appelle quand même Chocolat.
Ouais, il
y avait un gros clin d'œil. La référence est...
il y avait quand même un gros clin d'œil. Après, il y avait aussi le truc Belgique et tout ça, mais il y avait un gros clin d'œil, ouais. Ouais, ouais. Ici, en règle générale, j'ai fait évoluer mon écriture, je pense, et du coup, ça me fait parler moins de cannabis, quand même.
Ouais. Bah alors, c'est plus qu'un clin d'œil dans Chocolat, le morceau éponyme Chocolat.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est, donc, dans le clip, tu te transformes en espèce de Willy Wonka, Charlie et la chocolaterie, ouais. Sauf que les chocolats, ils ont l'air un peu spéciaux, ils ont l'air de faire rire un petit peu. Et puis, si on prend les textes, je vais lire juste quelques couplets comme ça. Je me rappelle quand j'avais 17, à l'école on fumait trop de chocolat, j'étais vraiment nul et je pensais que j'étais cool.
Tu rappes bien Christophe.
Ouais, t'as vu hein.
Putain, gros flow. T'avais passé un extrait là. J'avais pas l'instru. Juste.
Faut pas commencer le chocolat. Et si tu le fais, faut toujours être à deux. Mon ami, j'espère que t'es fort en main. Tu vas pas pouvoir compter sur la beuh. Tu vas pas pouvoir compter sur la beuh.
Et comme ça continue en fait avec des espèces de presque de messages de prévention, on a l'impression.
Ouais.
C'est ça, ce morceau, c'était aussi un message de prévention, genre pour tes plus jeunes fans.
Ben oui, en fait, t'as bien résumé. En fait, faut recontextualiser. On est en 2019 et je suis passé de rappeur qui parle à tes potes à rappeur qui est connu par ta petite sœur et tes cousins et tout. Je suis vraiment devenu mainstream. Je voyais que ça commençait à se rajeunir dans mon audience. Et ça m'est venu un peu comme une évidence, quoi. Et à partir de là, j'ai arrêté aussi d'en montrer sur mes réseaux sociaux. De montrer la plante et d'être dans l'incitation. Beaucoup moins qu'avant, en tout cas, quoi. Tu vois, de temps en temps, je craque un peu, mais... Mais il fallait le faire, je pense.
Mais du coup, tu penses que toi, en tant que rappeur, et peut-être les rappeurs et rappeuses en général, ont une responsabilité de ce point de vue-là? Je te pose aussi la question parce qu'on a fait une interview d'Oxmo Puccino il n'y a pas si longtemps. Ouais. Alors, il ne parlait pas de la conso, mais lui, il nous a dit « Je pense que le rap a une responsabilité dans le fait d'avoir glamourisé tout ce qu'il y a autour du deal et que ce n'est pas un super message à transmettre à la jeunesse. » Est-ce que, du Merci. Point de vue de la conso, c'est vrai aussi?
Ah. Ben justement, en fait, t'allais m'amener à la nuance avec le deal que je trouve pertinente et que je trouve tellement vrai. Il y a une fascination pour la rue, hein, qui est normale, évidemment, mais il y a un truc qui fait que c'est pour moi aussi problématique, au même titre qu'Oxmo. Dans la consommation aussi, je pense. Moi, j'estime pas spécialement qu'en tant que rappeur, quand j'étais, on va dire, que rappeur, je me sentais pas du tout responsable. J'avais l'impression que ça faisait partie des codes, entre guillemets. Ça m'a plus paru être une évidence au moment où je devenais, comme je disais, mainstream, quoi. Mmh. Et je vais pas te dire des noms, mais quand j'étais au Energy Music Awards, à l'époque, quand je faisais ce genre de process médiatique, et quand j'étais vraiment dans l'ultra mainstream, j'en ai vu des mecs qui bédavaient aussi de ouf, mais qui devaient vraiment rien dire, quoi, tu vois.
Ouais, je m'étonne.
Et j'ai tilté que j'étais dans un autre monde, quoi, tu vois. Et en vrai, même si je voulais pas, j'allais heurter des gens, vraiment, j'allais les provoquer en continuant comme ça.
Mais du coup, il y a un peu cette tension entre ce qu'on demande à tout musicien ou musicienne mainstream, d'être soi-même et d'être transparent avec le public, ce truc un peu de transparence.
De sincérité.
De sincérité, et le fait que, qu'on le veuille ou non, on est une sorte de rôle modèle, notamment pour des jeunes, des gens qui sont plus jeunes que nous, et du coup, on se doit d'être un peu exemplaire. Enfin, j'imagine que c'est pas évident de gérer cette tension-là.
Non, c'est pas évident, mais il faut apprendre. Il faut apprendre parce que ça fait partie du game, ça fait partie de ton métier. Tu sollicites les gens, je sollicite l'attention du public, et je leur demande de me regarder, de m'écouter, de suivre ce que je fais, de venir me voir. Du coup, je me sens un minimum responsable de ce que je dis. On n'arrive pas à me faire culpabiliser en me disant « Mon fils, t'écoute, il fume des spliffs et il est devenu accro. » Parce que c'est pas du tout ma façon de voir ma responsabilité. Par contre, j'estime que t'as un comportement à avoir, un minimum. Mais je reproche à personne de public de pas le faire.
Vous vous droguez ? Vous vous droguez ?
Non.
Pourquoi vous êtes amorti ?
Je suis quoi ?
Amorti. Endormi, si vous préférez.
Parce que j'ai pas dormi de la nuit.
Et pourquoi vous n'avez pas dormi de la nuit ?
Parce que j'ai du mal à dormir.
Ah, d'accord.
Passe-moi le blunt, passe-moi le briquet, bébé, quand t'es dev, tu me fais péter de rire, je te jure, à chaque fois je pleure. Passe-moi le briquet, bébé, quand t'es dev, tu me fais péter de rire, je te jure, à chaque fois.
Alors, puisque vous avez kiffé mon flow, je vais vous envoyer encore quelques couplets de Romeo Elvis. Quand tu dis « Passe-moi le blunt, passe-moi le briquet bébé, quand t'es def, tu me fais péter de rire, je te jure, à chaque fois, je pleure. »
Bonjour, on se présente, nous sommes les classes de CP. Avec Antoine et Ogaï, nous sommes peines à frapper.
Ça, c'est Bébé aime la drogue, qui était un des plus gros morceaux, hein, je pense, un des plus gros tubes de Moral 2.
Bien vu.
Là, tu parles de la place de la weed, alors pas que de la weed dans cette chanson, mais là sur le refrain en tout cas, c'est la place de la weed dans la relation de couple. Est-ce que toi, dans ta vie, c'est une activité de couple, la weed ?
Non, de temps en temps, on s'échange un petit pétard avec ma femme, mais c'est pas une activité de couple, non. Je suis le responsable, spliff de la maison.
Et est-ce que t'as déjà vécu ça en couple par le passé ? Ou ça a toujours été ton truc à toi, avec tes potes
Non, j'ai jamais eu cette occasion d'être dans une relation où on était deux gros consommateurs ou consommateurs réguliers. Non, et ce morceau-là, pour le coup, je voulais vraiment raconter une histoire plus d'une relation qui était intoxiquée par les drogues. Ouais. Mmh. Parce qu'en fait, ça peut aussi être totalement l'alcool, quoi. Il faut faire attention dans les couples à ce genre de choses, malheureusement.
Je voulais juste tester, elle voulait juste s'enfuir. On avait des grandes lignes, son corps était lesté. Bébé aime la drogue, bébé aime la drogue. Bébé aime la drogue, bébé aime la drogue. Bébé aime la drogue,
BPM, la drogue.
Y a un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, qu'on a déjà un peu abordé en creux, mais c'est la Belgique.
Ouais.
Je pense que tout le monde aura compris que tu es belge.
Ouais.
Même si, d'après ce que j'ai compris, tu vis un peu entre Bruxelles
ouais,
et Paris.
Très très souvent.
Ouais. Mais alors justement, est-ce qu'il y a une différence de rapport au cannabis entre la Belgique et la France ?
Incroyable. Une différence incroyable. Ouais, c'est clair. On est beaucoup moins tabou en Belgique là-dessus. Moi, j'ai des anecdotes avec les flics qui m'arrêtent. Avec un dealer.
Tu m'as l'air honnête, j'aime bien ta gueule.
Et qui voit ma bœuf, il me dit c'est pas ça qu'on cherche, range ça. Et c'est vraiment 50 euros de weed, quoi, tu vois, dans la poche, range ça. Et il me contrôle pas, ils essaient d'avoir. Et l'autre, il a rien sur lui, et bon, vous pouvez y aller. J'ai des anecdotes où je prends le train à Amsterdam, je rentre avec ma copine de l'époque, il y a un flic qui rentre dans notre voiture, qui vient chez moi, ça pue la bœuf, monsieur, vous avez de l'herbe sur vous. Moi, je fais le gland là. Ah oui, bah oui. Bah oui, j'en ai ramené quoi, tu vois, genre je savais pas qu'on pouvait pas. Il me dit, vous pouvez pas normalement. Et il me laisse ma bulle. Hein. Je traverse une frontière comme ça, je vous jure.
Sincèrement, je sais pas ce que cette drogue fait dans mon cul. On a dû me la mettre à mon insu.
Donc il y a un mec qui est venu, il a vite mettre 30 boulettes de drogue dans ton fion, et tu sais pas comment.
Mais oui.
Et la dernière, comme ça on en fait trois. C'est cet été, le 21 juillet, j'étais invité à chanter pour la fête nationale belge le 21 juillet sur la place royale. On est vraiment avec toute l'administration belge, les caporales de police, les chefs de douane, tout le monde, quoi, tu vois, vraiment toutes les hautes instances policières. Et je sais que là où je suis, c'est la seule fois où je serai entouré de toutes ces personnes et je pourrais me permettre d'allumer un spliff et qui pourront rien faire, quoi. Donc je pars sur ce truc de « Ah, je vais fumer un joint », quasi un peu en provocation, quoi. Et je fume, et donc tu vois plein de têtes qui se tournent vers moi, « Ah, celui-là, tu sais... » Donc c'est pas plus compliqué, c'est pas plus tendu que ça, hein, vraiment. Hein. Je vois vraiment que des... Il y a que des têtes qui s'amusent du truc. Et à un moment, il y a une des big boss de la douane belge qui est à côté de moi quand je fume ce joint, et qui me regarde d'un air un peu, hein. Et elle dit « Ça sent bon au moins, hein. Ça sent déjà meilleur que l'essence. Hein. Je jure qu'elle me dit ça. C'est possible que en Belgique, ça. C'est impossible dans un autre pays. Parce que c'est illégal en Belgique encore. Hein. Mais les flics, ils s'en foutent. On est dans un rapport beaucoup plus tranquille avec ça. Après, en Flandre, ils sont plus chiants. Les Flamands, ils sont chiants. Mais nous, à Bruxelles, tranquille, en Wallonie, tranquille.
Et vive la Belgique.
Et bien sur ces différences culturelles, on va conclure cet entretien. Et puis surtout, on va peut-être se retrouver après le générique pour la grande tradition. C'est la traditionnelle banane de fin. A tout de suite.
Magnifique.
Banana Kush.
Yes, we have no bananas.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today. Bananas today.
Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air quand même nettement plus chill, hein, les flics belges.
Oui, il y a quelques années, on chantait « Bruxelles arrive ». Attention, là, c'est les Parisiens qui vont débarquer en masse à Bru-Bru. Bon, par contre, j'y ai pas pensé sur le moment, mais ce que raconte Roméo, ça pose quand même une question. Comment auraient réagi les mêmes flics belges s'il avait été noir ou arabe ? Bah, faudra qu'un jour on aille poser la question à un concerné, Christophe.
En tout cas, merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, ça fait extrêmement plaisir. Comme d'hab, soutenez-nous sur les réseaux et sur les plateformes. Vous savez qu'on est toujours shadowban sur Instagram, et oui, ça reste extrêmement compliqué d'informer sur la banane. Donc si vous voulez nous trouver, il faut bien taper Banana Kush Podcast, tout attaché. Sinon, on n'apparaît pas, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez aussi ajouter notre compte Instagram dans vos favoris pour ne pas rater nos publications.
Merci évidemment à notre réelle Charlène Nouyux.
J'ai l'impression d'écouter Nova sous cocaïne, mais non, on parle de cannabis.
Et comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin du générique pour découvrir quelle banane va choisir Roméo.
Ciao.
Chanvre et Marie-Jeanne, opium à chiche, Blanche-Neige, sticky, trip et joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dithylamide et la nuit.
Et ben voilà, c'est l'heure de la traditionnelle banane de fin.
Ok, oui.
Donc, Roméo, on va te soumettre au dilemme,
ouais.
Au cruel dilemme auquel on soumet tous nos invités. On va te proposer deux bananes.
Ouais.
Il va falloir en choisir une qu'on va t'offrir, une seule.
Ok.
Alors, est-ce que tu veux repartir avec une banane jaune?
Ouais.
Ou avec une banane verte?
Allez, on prend la verte.
C'est
on
dur.
Part, on part du principe qu'elle est super verte.
Qu'elle est super verte, ouais. Elle est un peu verte, un peu marron malheureusement.
Ouais, y a pas de problème. On sait encore.
Donc tu prends la verte.
Quand même, ouais.
Quand même, ouais.
Ouais. Trop bien.
Même si elle est pas 100% verte.
Elle est pas 100% verte malheureusement, mais par contre on y pensera peut-être pour une prochaine interview.
À filer des bananes 100% vertes.
Ouais, et on leur dit rien.
Ouais, rien pour tester. Surtout.
On dit c'est de la part de Roméo Elvis.
Trop bien. Merci encore de m'avoir reçu. Vraiment, je suis très content.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Informations et prévention sur drogueinfoservice.fr.
J'arrive en aisance, Dominé c'est mon essence. Tu veux que je sois plaisant ou tu veux que je sois blessant? Je suis en slash, je pense à mes rages délaissés. Je suis comme une victoire délaissée. J'ai toujours détesté Messi, j'ai jamais goûté le Hennessy. J'ai fait une passe des assistés, il met un goal, il dit merci. Les vrais héros sont assistés, mais le public est diverti.
Les bénéfices ont fait gonfler l'épaisseur de la banane. Un jour la